Bonjour à toutes et à tous. On va commencer une série à partir d'aujourd'hui donc sur l'épître, la lettre qu'a écrite Paul, l'apôtre Paul, aux chrétiens qui habitaient Éphèse. Et on commence donc par le chapitre 1 ce matin, les versets 1 à 14, et juste pour introduire ce temps, j'aimerais nous poser une question. Pour quelle raison est-ce que nous bénissons, c'est-à-dire nous disons du bien de Dieu habituellement? À quoi est-ce qu'on pense quand on dit à quelqu'un « tu es vraiment béni » ? Peut-être qu'on pense cela de quelqu'un qui vient d'avoir un nouvel emploi et qui lui convient parfaitement, où il a plaisir dedans. Peut-être que nous disons cela de quelqu'un qui a reçu récemment une augmentation de salaire, ou qui est en très bonne santé, ou lorsque quelqu'un fait quelque chose à notre égard, nous sommes bénis. Ou alors quand une personne démontre des capacités particulières, oh, ce joueur, il a du talent, il est particulièrement béni. En fait, on pense souvent aux bénédictions en termes de tout ce qui touche au domaine matériel, à notre confort personnel, physique, et aux circonstances extérieures à nos vies, et qui nous sent bien souvent favorables. Alors bien sûr, ce n'est pas faux, c'est tout à fait juste. On peut parler effectivement de bénédiction en ce sens. Mais il y a un problème si ce n'est que ça. En fait, il y a un problème parce que quand on regarde la réalité de nos vies, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Il y a des personnes dans la vie qui semblent clairement plus éprouvées que d'autres. Il y en a qui ont une santé beaucoup plus fragile que d'autres. Il y en a qui n'ont peut-être pas la chance de naître en France dans une famille à peu près aisée. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a des enfants qui naissent dans des pays d'une extrême pauvreté, ou des personnes qui vivent dans des pays où il y a la guerre, où chaque jour, ils entendent le sifflement de bombes au-dessus de leur tête. Et puis, il y en a qui n'ont pas les mêmes capacités que d'autres et qui ont peut-être plus de difficultés à garder un emploi. La question est la suivante: est-ce que ces personnes sont moins bénis par Dieu? La question est importante parce que l'enjeu derrière cette question n'est rien de moins que notre vision de qui est Dieu. Parce que si on réfléchit en ces termes-là, on peut très facilement arriver à penser des choses comme « Dieu n'est pas vraiment juste, il n'est pas égal » dans sa démarche entre les uns et entre les autres. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, qui n'est pas équitable. Le rôle du passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est de nous inviter à regarder plus haut qu'aux bénédictions matérielles. Quelqu'un a dit que nos bénédictions matérielles sont comme des panneaux indicateurs vers des bénédictions bien plus grandes que sont nos bénédictions spirituelles. C'est une invitation ce matin à nous émerveiller, à contempler avec les yeux de la foi des bénédictions qui ne sont pas visibles, mais invisibles. Des bénédictions qui ne sont pas temporelles, mais éternelles. et peut-être pour nous placer un petit peu dans le contexte de ce passage qui a été écrit par Paul, il faut savoir que quand Paul écrit cela, Paul est en prison. Et je vous invite à lire donc cette lettre, le début de cette lettre que Paul écrit à des chrétiens qui habitent donc dans cette ville d'Éphèse. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance. En toute sagesse et intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Paul nous livre là un véritable feu d'artifice. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le privilège d'être sur Cré ce week-end pour la fête de la Saint-Féréol, et particulièrement vendredi soir, où il y avait un magnifique feu d'artifice au-dessus de la tour. Et le feu d'artifice, c'est vraiment le bouquet final. Ça pète de partout. Après les traditionnelles salutations que Paul a l'habitude de faire dans le début de ses lettres, on a l'impression ici que Paul explose littéralement en louange envers Dieu. Dans l'original, les versets 3 à 14 ne constituent qu'une seule et même phrase. Pas de virgule, tout est enchaîné. Une véritable envolée lyrique. Et on peut imaginer Paul qui écrit aux chrétiens et qui, dès le début de la lettre, se laisse transporter en pensant à quoi ? À ses bénédictions spirituelles. Paul, verset 3, bénit Dieu de nous avoir bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On a ici le résumé, le condensé de ce passage. Tout est dit. Quelles sont ces bénédictions ? Eh bien, Paul va les dérouler ensuite. Et en fait, c'est tout ce que Dieu a mis en œuvre pour nous sauver, pour notre salut. Et c'est en ce sens-là que Paul écrit donc à des chrétiens et il les invite à lever leur regard vers Dieu et vers ses bénédictions, vers tout ce que Dieu a mis en œuvre pour eux. Il va donc dérouler ses bénédictions Et on va voir donc trois choses. L'auteur de nos bénédictions, le contenu de nos bénédictions et le but de nos bénédictions. Tout d'abord, l'auteur de nos bénédictions. À qui est-ce que Paul adresse ses éloges ? Qui est-ce que Paul bénit ? Paul fait l'éloge de Dieu. Et on le voit dans ce passage. Dieu, dans tout son être, est impliqué pour nous bénir, pour nous combler en nous sauvant. On voit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est impliqué dans notre salut. Dieu le Père a planifié notre salut, versets 4 à 6. On va voir que Jésus-Christ a parfaitement mis en œuvre ce plan de sauvetage, versets 7 à 10. Et le Saint-Esprit nous applique les bienfaits de ce salut, versets 11 à 14. En fait, c'est l'initiative de Dieu et de Dieu seul. Verset 4, Dieu nous a choisis. Verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Verset 9, conformément au projet bienveillant. Ce plan de salut est le choix et le projet. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui a motivé Dieu à cela ? On le voit au travers de ce passage à différents endroits. Il est question de sa bonté, de sa bienveillance, de son amour, de sa grâce qui est définie par deux choses, une grâce riche et une grâce abondante. Dieu a manifesté sa générosité dans ce salut. Je ne sais pas ce matin quelle image est-ce que vous avez de Dieu quand vous pensez à Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un de barbant, de relou, de strict peut-être, quelqu'un de distant, peut-être un être ennuyant. Paul, ici, nous dit tout le contraire. On a une fenêtre ouverte sur Dieu, sur son cœur, un Dieu aimant, un Dieu bon, un Dieu bienveillant, plein de grâce, généreux, qui sait ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est-à-dire que nous soyons en relation avec lui et qui a donc tout mis en œuvre pour nous l'offrir. Alors, on va dérouler maintenant le contenu de ces bénédictions. Et on va regarder un petit peu à ces bénédictions dans le détail. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est parce que ça commence mine de rien à dater un tout petit peu, les émissions de Valérie Damidot, de décoration. Vous savez, quand ils retapent les maisons des gens, donc il y a toute la phase de travaux, puis les gens ne sont pas là. Et puis à la fin des travaux, les gens viennent et puis ils rentrent pièce après pièce dans leur maison et ils découvrent la transformation de leur maison. Je ne sais pas si vous voyez la tête que font les gens, parce que la caméra est très bien attentive à ça, et c'est... Oh, dans chaque pièce de la maison, les gens sont émerveillés devant la transformation. Peut-être que si ça ne vous parle pas, vous avez en tête la tête que vous faisiez ou que vous faites quand vous voyez vos enfants peut-être déballer un cadeau à Noël. Oh, qui découvre ce qu'il y a dans le cadeau. Je crois que Paul, depuis sa prison, faisait cette tête en pensant à chaque cadeau, chaque aspect de ces bénédictions de Dieu. Premier cadeau, Dieu nous a choisis. En lui, donc en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dieu a fait le choix de sauver certaines personnes. Et l'emphase de ce cadeau est mise sur quoi ? Sur la grâce, sur quelque chose de totalement immérité. Parce que, on voit dans ce verset que ce choix s'est fait dans l'éternité passée, avant la fondation du monde. ce qui dit clairement, ce qui veut clairement dire que ce n'est pas sur la base de nos mérites parce que nous n'étions pas encore nés à ce moment-là. Le deuxième élément, c'est ce que Dieu vise au travers de ce choix. Paul nous rappelle « pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui ». Et si Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, c'est justement parce que dans la pensée de Dieu à ce moment-là, nous n'étions ni saints ni sans défaut. Il nous sauve pour transformer nos comportements, nos pensées, tout notre être et nous rendre saints. Alors, ce sujet de l'élection de Dieu, ce choix que Dieu a fait, n'est pas facile à saisir. Ça peut créer des nœuds à nos neurones. Et si les théologiens ont beaucoup de mal à trancher et donner une explication très claire, ce n'est pas moi qui vais prétendre le faire ce matin. Parce que ce qu'on sait en tout cas, c'est que quelqu'un pourrait se poser la question et se dire mais n'est-ce pas moi qui ai choisi Dieu ? Et on pourrait lui répondre, c'est exact. Mais vous l'avez fait en toute liberté, mais uniquement parce que de toute éternité, Dieu vous avait d'abord choisi. En fait, on a, et c'est ce qu'il faut, je pense, qu'on retienne ce matin, un choix inconditionnel de Dieu. Rien en nous, rien dans notre vie n'a motivé ce choix de la part de Dieu. Et combien ça, c'est libérateur, je ne sais pas pour vous, alors qu'aujourd'hui, nous avons constamment ce besoin de devoir faire nos preuves, d'être à la hauteur, afin d'être considéré ou d'être aimé. On doit se montrer sous son meilleur jour pour essayer de plaire à un futur conjoint. On doit montrer toutes nos plus belles compétences si on veut se faire embaucher par notre futur patron. On doit montrer nos meilleures capacités si on veut prétendre à intégrer une équipe sportive. Et quelle déception, quelle douleur quand nous sommes parfois rejetés. Je me rappelle de ce moment terrible au collège quand il fallait que deux élèves choisissent les joueurs qui seraient dans leur équipe et quand personnellement j'étais toujours le dernier choisi. On sait que ce choix était par défaut, mais sûrement pas à cause de mes capacités. Dieu nous libère de devoir mériter d'être choisi. Il n'avait pas besoin de nous. Mais Dieu nous a choisis simplement parce qu'il avait envie de nous rendre heureux. Dieu nous a choisis tout simplement parce qu'il nous aime. Cela nous mène à ce deuxième cadeau, adopté. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. On a là tous les privilèges d'un enfant naturel. Alors qu'on était des enfants destinés à la colère de Dieu, Dieu a fait de nous ses enfants. Il nous a intégrés à sa famille spirituelle. Désormais, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous sommes en relation avec lui. Nous pouvons lui parler. Il nous parle par sa parole. Quand on prie, c'est-à-dire qu'on lui parle, on se sait écouter. Combien cette nouvelle identité devrait nous aider quand on fait face à la critique, aux moqueries, quand on a un travail qui n'est pas toujours valorisant, quand on fait face à nouveau au rejet des autres, parfois même de sa propre famille, de son propre père, de ses propres parents. Dieu m'a choisi, Dieu vous a choisi. Je suis son enfant et je fais partie de sa grande famille qu'est l'Église. Nous avons autour de nous des frères et des sœurs spirituels, où que nous allions, ici à Cré, ou ailleurs en France ou dans le monde. Cette relation filiale avec Dieu est rendue possible grâce au cadeau suivant. On déballe le troisième cadeau. en lui par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Ici, ce que Paul utilise comme langage, c'est le langage de l'esclavage et du prix, de la somme que quelqu'un pouvait payer pour permettre à un esclave d'être libre. La rançon, le paiement d'une rançon. Quelle est cette rançon qui a été payée par Dieu ? Le sacrifice de Christ. Alors que nous étions rebelles à Dieu, alors que nous étions esclaves de nos fautes et destinés à subir cette juste colère de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a subi sur cette croix, et on vient de prendre ce pain et ce vin, cette colère à notre place. Et il a réglé en cela la dette immense et insolvable par nous-mêmes que nous avions envers Dieu. Nous sommes pardonnés grâce à Christ. La dette est payée. Voilà la manifestation de la richesse, de la grâce de Dieu. De quoi est-ce que vous vous sentez coupable ce matin ? De quoi avez-vous honte quand vous regardez à votre propre vie ? Tout est effacé. Tout est pardonné si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Quatrième cadeau, Dieu nous a éclairés. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Dieu nous a révélé son plan. Un secret, un mystère, pour Paul, c'est simplement une réalité qui était voilée avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Quel est ce secret qui était voilé, qui a été dévoilé quand Christ est venu et qui s'est offert sur cette croix? Eh bien, tout ce qui est sur la terre et dans le ciel doit être réuni un jour de façon harmonieuse en Christ. Sur la terre, on ne s'en aperçoit pas encore parce qu'il y a des conflits qui existent. On a parlé de la paix et il n'y a pas toujours la paix dans les relations. On sait que dans le monde spirituel, il y a aussi un combat qui a lieu, des puissances spirituelles qui s'opposent à Dieu. Paul dit par ailleurs aussi que toute la création soupire après la délivrance. Un jour, l'univers entier sera rétabli, restauré sous l'autorité de Christ. Cela dépasse simplement le salut de notre personne. Même si Dieu, dans sa grâce, a permis qu'on ait une part dans son plan. Mais le plan, le projet de Dieu est bien plus grand. Réunir toutes choses sous son autorité. Quatrième cadeau, il nous a acquis et assuré d'un héritage. Nous appartenons à Dieu et nous sommes les bénéficiaires d'un héritage inestimable. Et Paul donne deux images pour illustrer cela. La première, c'est celle du sceau, qui était une marque de propriété. Une lettre à l'époque qui était scellée par le sceau du roi signifiait, quand on la recevait, que c'était une lettre qui venait du roi lui-même. Quand les bêtes d'un troupeau sont marquées d'un sceau, cela sert à identifier quel est le propriétaire de ces bêtes. Quel est le signe de notre appartenance à Dieu ? Le Saint-Esprit, nous dit Paul, qui n'est pas visible, mais qui est présent chez toute personne qui, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile, cette bonne nouvelle de la vie, de la mort, de la résurrection de Christ, ont cru. C'est-à-dire qu'elles ont placé leur foi en Jésus-Christ seul pour leur salut. À ce moment-là, Dieu est venu vivre en elle, en nous, par son esprit. Deuxième image, cette image du gage, de cet acompte. Et là, Paul utilise un langage commercial. C'est un acompte, ce sont les arts, ce Saint-Esprit qu'on a reçu, c'est comme le premier versement qui assure que la somme totale va être versée. L'Esprit est donc un acompte de notre héritage futur qui nous attend sur une nouvelle terre avec de nouveaux cieux sous le règne bienveillant de Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez inscrit sur votre liste de choses à faire avant de mourir. Sachez que ce qui nous attend est de loin supérieur à tout le meilleur de ce que nous pourrons jamais vivre sur cette terre. Alors j'ai une question pour nous. Est-ce que c'est OK si au moment de quitter cette terre, je n'ai peut-être jamais été propriétaire d'une maison? Je n'ai pas visité tous les recoins du monde que j'aurais aimé. Que je n'ai pas eu, trois petits points, et chacun peut compléter avec ce qu'il a envie. Ou que je n'ai pas fait, trois petits points, et là aussi chacun peut compléter. Qui est celui qui nous a acquis toutes ces bénédictions? On a dit que c'est Dieu qui est l'auteur, mais je ne sais pas si vous avez vu dans ce passage, plus de 11 fois, il est question de « en lui ». En Christ, dans son Fils. Christ est celui qui a acquis ses bénédictions pour nous. C'est en lui que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. C'est par son sacrifice que nous sommes rachetés et pardonnés. C'est sous son gouvernement que l'univers entier sera réuni avec harmonie. C'est par lui que nous avons part à l'héritage promis. Nous n'avons aucun mérite. Tout le mérite est pour le Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous, si nous sommes en lui, tout est grâce. On peut prendre cette image du mariage et imaginer une personne pauvre, une femme pauvre, qui n'a rien, pas un sou en poche, qui dort peut-être dehors. Et un jour, un homme riche vient, tombe amoureux d'elle et l'épouse. Cette femme, au travers de cette union avec cet homme, devient soudainement au bénéfice de tout ce que cet homme a accompli dans sa vie et de tout ce qu'il a. C'est une image bien imparfaite, mais voilà ce qui s'est passé pour nous en Christ. Nous n'avons rien, et par notre union, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes au bénéfice de tout ce que Christ a accompli pour nous. La vie chrétienne, la foi chrétienne, tourne autour d'une seule et même personne et centrée sur une seule et même personne, Jésus-Christ. On termine avec le but de nos bénédictions, et cela arrive, vous relirez le passage chez vous, comme un refrain tout au long de ce passage. Verset 6, verset 12, verset 14. Dieu nous a choisis et adoptés pour célébrer la gloire de sa grâce. Verset 6. Dieu nous a mis à part pour célébrer sa gloire. Verset 12. Dieu nous a acquis et assuré d'un héritage pour célébrer sa gloire. Verset 14. Pour faire la fête, pour célébrer quoi ? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la révélation de qui Dieu est. C'est un terme qui signifie le poids. C'est le poids de toutes les perfections de Dieu. Et donc la gloire de sa grâce, c'est le poids, la beauté éclatante de l'immense grâce que Dieu a manifestée dans notre salut. Quel est le poids de la grâce de Dieu dans ma vie? Alors que ce matin, peut-être, je réalise à nouveau l'ampleur, la grandeur de ces bénédictions imméritées. Paul, du fond de sa prison, s'émerveille. Et il bénit Dieu. Il célèbre sa grâce. Voilà quel est notre rôle. Quelle est la réponse que Dieu attend de nous. bénir Dieu. Quelqu'un a dit, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. L'être humain ne sera jamais plus heureux que lorsque sa vie est centrée non pas sur soi-même, mais sur Dieu. Lorsque sa vie, dans tout ce qu'elle est une célébration de la grâce de Dieu. Alors comment pouvons-nous bénir Dieu ? Nous pouvons le faire en chantant, quand nous sommes rassemblés comme nous l'avons fait ce matin. Nous pouvons le faire en nous rappelant ses bénédictions chaque matin, en nous levant, en les méditant peut-être, en nous les rappelant les uns aux autres dans le courant de nos semaines, de nos journées, en parlant autour de nous, aux personnes qui ne savent peut-être pas encore ces choses, en nous réjouissant au plus profond de nos cœurs de ces bénédictions et de cette grâce, et en vivant toute notre vie, aussi simple soit-elle, pour Dieu, et dans une attitude de reconnaissance envers qui Dieu est et ce qu'il a fait. Quelqu'un pose cette question et dit, si nous devions choisir ce matin entre une hausse du pouvoir d'achat et une appréciation plus profonde de notre salut, que privilégierions-nous donc ? Je ne vous en veux pas si vous répondez les deux. Mais s'il y avait vraiment un choix à faire. Je termine en se rappelant ensemble, en nous rappelant ensemble l'histoire de cet homme, Job, dans la Bible, qui nous dit que cet homme aimait Dieu. Et je crois que s'il est un homme sur cette terre qui a particulièrement été béni matériellement, en termes de santé, en termes de famille, c'est bien Job. Il avait une bonne santé. Il avait une grande famille, beaucoup d'enfants, de serviteurs, des terres, du bétail en quantité abondante. Et puis, du jour au lendemain, il a tout perdu, même sa santé. Vous pouvez relire toute son histoire dans le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament, le livre de Job. Et Job affirme ceci, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Je crois que Job avait saisi au fond de lui que malgré tous ses biens qui lui avaient été repris, il avait trouvé dans cette relation avec Dieu ce qu'il avait de plus précieux. Et qui lui permettait d'affirmer que le nom de l'Éternel soit béni. Je prie. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour ta parole. Merci pour cette fenêtre ouverte sur ces bénédictions qui sont certes invisibles, qu'on ne voit pas, mais que nous sommes appelés à contempler encore ce matin par les yeux de la foi, parce qu'elles sont écrites dans ta parole et qu'on sait que ta parole est la vérité, que tu l'as inspirée à des hommes et que tu nous l'as transmise et que tu es toujours juste, que tu es toujours vrai. Alors Seigneur, je te prie pour chacun de nous ce matin que nous puissions nous réapproprier ces vérités, quelles que soient les circonstances de nos vies. Et pour cette semaine qui arrive, que nous puissions nous lever chaque matin en bénissant ton nom pour chacune de ces bénédictions qu'on a mentionnées. Merci pour Jésus-Christ qui a tout accompli et qui nous a offert cela. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait de comprendre cela et de répondre par la foi. Même cette foi est un cadeau de ta part. Nous ne méritons rien, tout est grâce et je veux te bénir pour cela, Père. Amen.